Alors, si vous voulez, on va se courber et on va prier notre grand Dieu. Notre Père, merci d'avoir conçu un plan de rédemption qui sauve de leur condition des gens indignes et coupables et les fait entrer dans ton royaume. Ce royaume existe non seulement sous la forme d'un royaume céleste, éternel, il est présent de manière vitale déjà sur la terre. Nous nous réjouissons de ce que tu as décidé de bâtir ton royaume à partir de ton corps, l'Église, chaque membre ayant un rôle important à jouer. En passant à l'apôtre Paul, nous reconnaissons les dons et les aptitudes que tu lui as données pour les progrès de ton royaume, et nous sommes grandement encouragés de savoir que les Saintes Écritures honorent ceux qui l'ont aidé. Tu as entouré Paul de gens que nous ne connaîtrions pas s'il n'avait pas nommé ceux qui priaient pour lui, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui l'ont assisté dans ton œuvre sublime. Merci, Seigneur, pour cet exemple, pour ce modèle montrant les membres du corps de Christ travaillant ensemble. On se rappelle que tu n'as pas seulement sauvé des pécheurs, tu les as aussi rassemblés en un corps sous la puissance de ton Saint-Esprit pour accomplir tes desseins glorieux. Ta grâce est abondante à tous égards. Nous te bénissons pour l'Évangile et ce qu'il apporte, le salut, la libération, la guérison, la santé et l'espérance. Merci de ce que tu trouves ton plaisir en nous et que tu nous unis dans cette merveilleuse réalité appelée le corps de Christ. Père, nous te prions par le précieux nom de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, à qui appartiennent et à toi le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça vous arrive-tu que ça l'aille bien? Hein? Ça va trop bien? Non? La parole dans Pierre nous dit, 1 Pierre 5-8, « Soyez sobres d'esprit, soyez sur le qui-vive. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et ce quelqu'un-là, imaginez-vous pas que c'est des pécheurs condamnés. C'est nous, les chrétiens. C'est facile d'être sur nos gardes quand les choses vont mal. On dirait qu'on est plus sensible. On fait plus attention. Mais quand tout va bien, ah bon ben, des fois on se retrouve à baisser les gardes. Notre garde. On baisse les bras. On ne fait plus attention. Ça va bien. Et nous, les croyants, bien, il faut être vigilant. Il faut faire attention. Même dans les temps où ça va bien, même dans les temps de paix qu'on appelle. Parce que Satan cherche toujours à nous faire tomber. Toujours. Y a-t-il quelqu'un ici dans une journée qui n'a pas une tentation? de faire un mal, le mal. Frères et sœurs, il ne faut pas devenir une proie aux subtilités du diable. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut nous faire tomber. Et la parole de Dieu nous encourage à veiller et à faire confiance au Seigneur qui, lui, est le seul qui peut nous protéger. Après avoir travaillé durement pour atteindre des objectifs dans la vie, c'est naturel qu'on veuille se détendre un peu, hein, prendre ça un peu relax, et on veut se reposer. Mais souvent, le succès dans certains domaines de nos vies, ça pourrait faire en sorte de nous rendre moins sensibles aux tentations du diable. Prenez juste par exemple, gagner beaucoup plus d'argent qu'on gagnait et que les tentations vont être là. Ah oui, les tentations vont être là. On pense que maintenant, on est en sécurité. Ça va bien. Mon compte de banque est plein. On peut commencer à faire toutes sortes de compromis. Pas grave. Ça peut être dans notre attitude. Hein? On devient un petit peu plus hautain. On change d'amis autour de nous. On s'associe peut-être avec des gens de borderline. Ou peut-être des fois, nos pratiques, notre façon d'agir peut devenir douteuse. Et ça pourrait également se produire dans notre vie spirituelle, en dedans. Après avoir lutté dans un aspect particulier dans nos vies, puis d'avoir eu la victoire, oh ben là, c'est là qu'arrive qu'on peut être tenté de baisser nos gardes. Parce qu'on se dit, hey, on a gagné, on a surmonté le péché, oups-là. Non, fais attention. Saute pas trop haut. Pourtant, qu'est-ce qui arrive sans même s'en rendre compte? Bien, il arrive qu'on commence à aller à la dérive. Tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tout va bien? Vous savez, il y a des moments où je pense que tout va bien, mais ce que je ne réalise pas, c'est que ça peut être le début d'une catastrophe qui s'en vient. Ça va trop bien. Hein, tout est en ordre dans ma vie. Et là, on va aller dans nos Bibles. Puis on va regarder Genèse 2, si vous voulez. Genèse 2, à partir du verset 7 à 17. Et c'est important qu'on lise ce passage-là, parce que c'est dans ce passage-là, ce matin, qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 2, versets 7 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et ensuite l'arbre de la connaissance, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on peut s'imaginer que c'était un bel endroit. Ensuite, au verset 10, il dit, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or, L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans Genèse 1, juste si on fait un petit recul, Genèse 1 décrit la création de la terre et de tout ce qui s'y trouve, y compris l'humanité. Et on peut lire au verset 27, « Dieu ensuite a créé l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu. Il l'a créé homme et femme. Il les a créés. » Mais regardez bien au verset 31. Qu'est-ce que le Seigneur dit? « Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Dieu lui-même dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait créé, c'était bon, très bon. Et premièrement, on va parler de la résidence d'Adam, parce qu'on l'a lu, mais le Seigneur Dieu a planté un jardin. Hein, un jardin appelé Éden. Et il a placé Adam et Ève. Tout était parfait. Hein, parfait. Quand on dit que c'est parfait, là, j'ai eu la misère à dire ça, moi, aujourd'hui. C'est parfait. Mais des fois, on le dit. Mais là, c'était plus que parfait. Et Dieu a suppléé à tout le besoin. Il n'avait pas besoin de chercher de quoi manger. Il avait tout ce qu'il voulait. Des bons arbres, des bons fruits. Il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait beaucoup de nourriture, des arbres, de la rivière. Ils n'ont jamais manqué d'eau. Donc, l'environnement était absolument magnifique. On peut peut-être même pas se l'imaginer, mais c'était extrêmement beau. Mais Adam avait une responsabilité. Dieu a donné une responsabilité à Adam. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il a donné la responsabilité de le garder et de le gérer. Et fondamentalement, Adam était ce qu'on peut appeler un jardinier, peut-être même un agriculteur, parce qu'il avait à prendre soin de la terre. Et je vais vous dire que dans ce temps-là, le travail... C'était pas comme aujourd'hui. On ne peut pas considérer le travail aujourd'hui avec ses peines, sa fatigue. Non, au ciel, le travail, si jamais un jour, quand on va aller au ciel, qu'on a à travailler, ce ne sera pas un travail comme on pense aujourd'hui. Ça va être le bonheur parfait. Donc, Adam, il n'était pas censé juste rien faire, hein, à côté, sur le bord de la plage, mon ami, mon nez. All set. Juste s'asseoir, juste manger des fruits, profiter de la beauté du jardin. Mais non, Dieu lui a donné un travail significatif, donc une responsabilité. Puis, troisièmement, il lui donne une restriction. Juste une restriction. Hein? Le Seigneur lui a fourni un environnement parfait, beau, fructueux, pour les deux, pour Adam et Ève, mais il a mis une restriction. Mais de l'arbre, Genèse 2, 17, hein, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Donc Dieu a placé cet arbre-là dans le jardin pour donner... On se demande pourquoi Dieu a fait ça. Pour donner à Adam et Ève la possibilité de choisir de l'aimer. Parce qu'en désobéissant, c'est une marque, c'est pas une marque d'amour. La désobéissance là, dans l'amour, ça n'existe pas. Donc, Dieu a placé cet arbre-là, il a mis cette restriction-là, parce que Dieu voulait voir qu'est-ce que l'homme choisirait. Mais en permettant à Adam et à Ève de faire leur propre choix, il a également introduit la possibilité qu'il pourrait le rejeter. Vous savez, lorsqu'on est dans la relation avec Dieu, dans l'acceptation de l'amour de Dieu, ça rend notre relation avec lui plus précieuse et plus gratifiante. Mais lorsqu'on désobéit, il y a un mur. Et remarquez-là ça dans vos vies. Lorsqu'on désobéit au Seigneur, il me semble qu'il s'est éloigné. Mais ce n'est pas lui qui s'est éloigné, c'est nous. Puis il me semble qu'il n'est plus aussi accessible tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la repentance et d'aller vers lui et lui demander pardon. Et sachant que cette catastrophe-là résulterait d'une mauvaise décision, et c'est justement ce qu'ils ont fait, le Seigneur les a avertis consciemment des conséquences qui suivraient de leur désobéissance. Ils mourraient sûrement. Maintenant, comment Adam et Ève ont répondu? De quelle façon? Adam et Ève avaient toute la connaissance. Ils étaient satisfaits au plus haut point. Donc, ils pouvaient avoir besoin de rien. Il y avait tout. Puis même des fois, c'est dans notre vie, on sort. Oh, j'ai tout, moi, chez nous, je suis équipé, là. Il y a toujours quelque chose, on dirait, qui te manque. Hein? Satan, c'est ça qui est là qui arrive, lui. Satan a tenté Ève en la séduisant. Et il lui a dit, concentre-toi sur ce que tu n'as pas. Facile. Il y a bien des affaires, je voudrais. Je regarde ma femme, là, puis... Il y a bien des affaires que je voudrais, mais... Je ne regarde pas ce que j'ai. Donc, Satan, il est le père du mensonge. Il dit à Ève, concentre-toi, qu'est-ce que tu n'as pas? Et là, il lui dit, Dieu t'a caché quelque chose de bon. Tout comme ça, hein? Dieu t'a caché quelque chose de bon. Mais il lui dit qu'elle pouvait être comme Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être comme Dieu. Et elle a cru au mensonge du diable, malgré tout ce qu'elle avait. Et l'homme n'aurait pas fait mieux, là. Et là, elle mange de ce fruit qui vient de l'arbre interdit. Et selon les Écritures, elle a remis ensuite le fruit à Adam. Puis lui aussi, je ne dirais pas le mot, mais il en a mangé. Il a ignoré, hein, c'est lui le leader là, dans la famille, là, l'avertissement de Dieu. Et a peut-être même pensé, il s'est dit en lui-même, si Ève n'est pas morte tout de suite, ça va passer. Hein? Ben non, elle est encore là. Dieu dit qu'elle mourrait, mais non, elle est encore là. Il n'y a rien qui a changé. Mais le résultat de leur péché, ça a été la honte, le fait qu'ils soient conscients de leur nudité dans la fraîcheur de la journée. Et lorsque Dieu est venu se promener dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Et ça serait la même chose si Dieu reviendrait aujourd'hui. Si tu n'as pas réglé ta foi avec Dieu, tu vas te sauver. Tu ne voudras pas regarder un Dieu trois fois saint. Puis même nous, les chrétiens, si on n'est pas en communion avec Dieu, on ne voudra pas le voir. Quand tout va bien dans nos vies, on doit être sur nos gardes. Ça ne pouvait pas aller mieux pour Adam et Ève. Mais le diable a toujours de quoi à offrir qui est totalement opposé à ce que Dieu a pour nous. Dieu nous offrera pas Dieu, mais Satan nous offrera pas ce que Dieu veut pour nous. Et au lieu de reconnaître toutes les bénédictions que le Seigneur nous a déjà données, et de se rappeler, frères et sœurs, de ce qu'il a dit dans sa parole, Satan nous dit que nous avons besoin de plus. Il y a quelque chose que tu n'as pas goûté puis que c'est bon. Et là, il nous promet la jouissance en dehors du plan de Dieu. Tu vas être correct. Tu vas être bien. Tu vas être satisfait. C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'on doit être sensible. Si on est vraiment sauvé, si on est né de nouveau, il faut être sensible à l'Esprit Saint qui vit en nous. Parce que lui, c'est celui qui nous guide dans la vérité. C'est celui qui nous met en garde contre le péché. Si tu es un enfant de Dieu, lorsque vient l'occasion de pécher, tu es averti. C'est pas naturel, tu n'es plus naturellement un pécheur, tu es un pécheur converti. Donc oui, la tentation va venir, l'Esprit Saint va t'avertir. Mais si tu étouffes l'Esprit Saint, tu vas laisser la convoitise embarquer. Et ensuite, tu vas aller dans le péché. Et toutes ces douleurs qu'on appelle la mort, le mal, la misère dans le monde, ont commencé dans un jardin parfait. Lorsque deux personnes ont désobéi à Dieu. Et depuis lors, depuis ce temps-là, l'humanité ressent tout le poids du péché et de la culpabilité. Je disais dans les funérailles dernièrement que la mort a déjà commencé en chacun de nous son œuvre. Perte de cheveux, dents cariées peut-être, cancer, et on peut en rajouter. Donc, il ne faudrait jamais penser qu'entretenir ce que ce soit le plus petit des péchés dans nos vies ne nous fera pas de mal. Oh, c'est pas grave, voyons donc, pas grand-chose. Il n'y a personne qui le sait. Quand je suis seul le soir, là, avec mon ordinateur, là, puis tout le monde est couché, puis que je joue à, ou que je vais voir des. C'est dur! C'est un péché. Tu trompes ton épouse. Le Seigneur a dit, juste penser. C'est comme tromper ton épouse. Et tout comme le premier péché, il se multiplie. Ça n'arrête pas là. En plus de désobéissance et en plus de conséquences. C'est ça qui arrive. Adam et Ève avaient tout, et ils ont fini par tout perdre parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu quand il les a avertis que le péché aurait des conséquences sérieuses. Et aujourd'hui, beaucoup de gens suivent leurs traces. Et je dirais même que certains chrétiens sont dans des mauvais chemins. On refuse de croire et on refuse d'obéir à Dieu. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on souffre des conséquences douloureuses du péché. Ça ne va pas bien. Maintenant, cinquièmement, le regret, les regrets d'Adam. Vous savez, en raison de leur désobéissance, Adam et Ève ont été expulsés du Jardin d'Éden. Ils se sont rendus compte trop tard qu'ils avaient pris la mauvaise décision. Intérieurement, ils étaient remplis de honte et maintenant ils faisaient face à la peur de ne pas savoir ce qui était pour leur arriver. Imaginez-vous ça. Dans un environnement parfait, et on n'aurait pas fait mieux là. Dieu nous a donné le choix pour ça, puis je pense que je suis content que je n'ai pas le choix dans mon salut. C'est-à-dire que oui, j'ai peut-être pris la décision, mais c'est Dieu qui m'a choisi d'avance. Amen. Parce que lui ne se trompe pas. Et nous, les croyants, les gens qui sont nés de nouveau, on a tous ressenti l'intensité, le regret intense, c'est-à-dire d'avoir désobéi au Seigneur. Hein? Quand on pêche, là, on n'est pas bien. Et on réalise souvent trop tard les conséquences d'un mauvais choix. Et ça roule dans notre esprit. Hein, le hamster, il se promène. Puis il roule. Oh, j'aurais dû pas avoir fait ça. Et au lieu de vivre dans le regret du péché, Dieu nous donne le privilège de vivre dans l'obéissance à sa parole. Gloire à Dieu pour ça. Le salut est encore disponible pour quiconque croit. Seigneur nous accorde, en naissant de nouveau, son esprit qui nous avertit à chaque fois qu'on s'en va dans la mauvaise direction. On ne va pas là. Ah, moi, il y a des pareils. Ça a de l'air beau. Il n'y a rien qui va arriver. Non, vas-y pas. Et toute la Bible est remplie d'avertissements concernant les dangers du péché et aussi des résultats qui sont désastreux face à la désobéissance. Ah, vous allez me dire, c'est de l'école, là. C'est de la petite école, ça. Non. Là, on va dire, ah, c'est pas de la viande. Oui, c'est de la viande, ça. C'est pas juste du lait. Pourquoi? Parce que c'est un des plus grands combats qu'on a, chacun de nous, à poursuivre chaque jour. Parfois, on peut être stupide comme Adam, qui a peut-être mangé le fruit parce que, comme je vous disais tantôt, parce que Ève n'était pas morte tout de suite. Au début, oh, il semblait ne pas y avoir de conséquences pour la désobéissance. Et des fois, c'est comme ça. Tu as fait le péché, ah, non, ça, c'était pas si pire. Mais dès que Ève a eu mangé le fruit, la mort a commencé en elle. Sans le savoir, beaucoup de gens aujourd'hui meurent intérieurement. Meurent intérieurement parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils vivent dans les conséquences du péché. Et ça ne peut pas arriver à une personne qui est sauvée. Si tu ne réalises pas les conséquences du péché, remets ta foi en question. Dieu nous avertit clairement que chaque fois que nous péchons, Satan commence à faire son travail destructeur en chacun de nous. C'est pourquoi on doit être attentif, et je le répète souvent, à lire la parole de Dieu à tous les jours, à prier à tous les jours notre Père du ciel, à être sensible aux inspirations et aux avertissements du Saint-Esprit. Le Seigneur nous l'a promis, le Saint-Esprit, il vit en nous, les chrétiens nés de nouveau. Pourquoi qu'on veut lui fermer la porte au nez? Pourquoi qu'on se bouche les oreilles quand lui nous parle? Alors que nous développons notre relation avec Dieu de cette façon-là, lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on est dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, lorsqu'on laisse l'Esprit agir à nous, bien, on est protégé contre les tromperies du diable, les tentations de notre ennemi mortel, Satan. Donc, cette semaine, en concluant, j'aimerais qu'on réfléchisse à ceci. Quand est-ce que tu es le plus susceptible à céder à la tentation? Il y a des moments où ce que peut-être tu es plus faible. C'est quand tout va bien, que tu as tout ce que tu as de besoin, tout ce que tu veux, ou bien non, lorsque tu es en train de lutter désespérément le besoin de l'aide de Dieu. Hein, vous avez vos pamphlets, ils sont tous écrits là. Si vous n'avez pas de pamphlet, Richard va vous en donner un. Ensuite, de quelle façon Satan a-t-il essayé de changer ton attention des bénédictions abondantes de Dieu dans ta vie et ce que tu n'as pas? Hein? Quand tu brasses tes désirs là, dans ta tête, qu'est-ce que Satan a tenté de te faire poursuivre qui est bon en dehors de la volonté de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui est bon en dehors de la volonté de Dieu? Es-tu aux prises avec des regrets pour les actes passés de désobéissance? Y a-tu des choses que tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça? Et les conséquences, malheureusement, sont irréversibles. Mais il y a un espoir en Dieu. Dieu va passer l'éponge là-dessus si tu lui confesses tes péchés, si tu lui demandes pardon et si tu crois en Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie sur cette croix-là, au calvaire, pour te sauver. Comment peux-tu transformer ce regret en une forte motivation à vivre docilement, dans l'obéissance, devant Dieu à l'avenir? Repens-toi. Viens au Seigneur. Et j'aimerais qu'on lise en conclusion, et à titre de prière aussi, le psaume 119, versets 65 à 68. Psaume 119. Versets 65 à 68. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. En Jésus, on prie. Amen.